Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen.
Bonjour Stanislas Dehaene.
Bonjour Patrick Cohen.
Chercheur en neurosciences cognitives, professeur au Collège de France et président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Pour ce retour à l'école cette semaine, retour encore très partiel, est-ce que vous avez une idée sur qui est rentré, qui est resté à la maison, qui a disparu et quels sont les dégâts provoqués par ces deux mois d'arrêt ?
Alors moi, j'ai pas beaucoup de chiffres encore sur le nombre d'enfants qui sont rentrés. On sait que c'est surtout les petits qui sont rentrés et que la semaine prochaine, ça va être les 6e et les 5e, avec une rentrée partielle. Hein. Moi, je travaille au niveau du conseil scientifique pour essayer de proposer des solutions, des aides pour les enseignants et effectivement aussi des mesures, des conséquences. Nous avons écrit un document au conseil scientifique pour faire un certain nombre de recommandations pédagogiques, mais aussi de recommandations scientifiques pour pouvoir mieux mesurer ce qui s'est passé pendant ces deux mois et quelles en sont les conséquences pour les enfants. Conséquences, je dois dire tout de suite, qui peuvent être positives, hein, aussi bien que négatives. En tout cas, les conséquences sur l'institution me paraissent potentiellement extrêmement positives, parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une mobilisation absolument extraordinaire de l'immense majorité des acteurs, un petit peu dans l'esprit de Kennedy, hein, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Je crois qu'on a vu ça, et on a eu donc, pas seulement au niveau de l'éducation nationale d'ailleurs, dans lesquels il y a de nombreux acteurs du numérique, par exemple Canopé, CNED, etc., mais on a eu aussi une mobilisation de la télévision, on a eu une mobilisation des radios pour les enfants du pays. Et c'est une mobilisation que nous, au Conseil scientifique, on appelait de nos voeux depuis très longtemps, bien avant le Covid.
On va parler du positif et de ce que les outils numériques peuvent apporter encore davantage à l'avenir à l'école. Mais vous dites, Stanislas Dehaene, que chaque semaine passée loin de l'école aggrave les inégalités et une forme de reproduction sociale.
Ben, c'est le principal problème que l'on craint. Hein. Même si on n'a pas de chiffres précis pour les deux derniers mois, on sait dans la littérature scientifique qu'à chaque fois qu'il y a déscolarisation, il y a de graves conséquences cognitives. Alors ça peut être vrai, par exemple, simplement pendant les vacances scolaires. Et ça, c'est assez bien connu. Je ne veux pas faire un parallèle direct, parce que là, c'est pas vraiment des vacances, bien entendu. Il y a eu poursuite de l'enseignement pour beaucoup d'enfants. Mais enfin, il y a quand même eu quelques enfants, peut-être, on estime, de l'ordre de 5%, qui ont été complètement déconnectés. Et alors cela... si on fait le parallèle avec l'effet des vacances scolaires, on sait que ça aggrave les inégalités. C'est-à-dire que pendant les périodes de vacances scolaires, les inégalités qui s'étaient réduites pendant l'année, hein, ça c'est très intéressant parce que on sait par des études longitudinales que l'école réduit les inégalités pendant l'année, mais au cours des vacances, ces inégalités augmentent à nouveau de façon massive. Sans doute parce qu'il n'y a pas poursuite de l'apprentissage. Et vous savez que pour le cerveau en développement, l'apprentissage c'est vraiment 7 jours sur 7, je dirais 24 heures sur 24, parce que aussi bien le jour que la nuit, le cerveau consolide ses apprentissages.
Ouais, donc, beaucoup se sont demandé pourquoi on faisait rentrer les plus petits en premier. Vous dites que ce sont les années décisives, celles qui comptent le plus pour le développement de l'enfant.
Hein. Oui, alors ça c'est le deuxième point, c'est que ces effets sont cumulatifs. Et donc, les années les plus précoces comptent le plus. La scolarisation en maternelle a un effet cumulatif sur la lecture, sur les maths, et à la fin, sur l'illettrisme ou sur la sortie sans diplôme. Donc, effectivement, c'est une bonne décision, je pense, de faire rentrer en premier les petits, et surtout ceux de zones défavorisées.
Alors, vous le soulignez tout à l'heure, pour une grande majorité d'enfants, il n'y a pas eu de déconnexion. Les outils numériques ont permis de maintenir le lien, parfois avec profit, avec une dimension ludique et personnalisée, peut-être moins présente en classe. Ça peut servir de leçon pour la suite ?
Ah, je l'espère beaucoup. L'intérêt des outils numériques est potentiellement multiple. Hein. C'est de compléter l'enseignement qui est donné en classe, mais c'est aussi d'apprendre aux élèves que apprendre c'est amusant, qu'on peut apprendre en autonomie, ce qu'on appelle en sciences cognitives l'autorégulation, c'est-à-dire qu'on déclenche soi-même son propre apprentissage, on est curieux, on va chercher les informations. Et puis, ça permet de proposer une pédagogie qui peut être en complément de celle de l'école et qui est très personnalisée. Et ceci aussi pour 100% des enfants. Ça, c'est très important, parce que dans une classe, il y a souvent quelques enfants qui rêvent, qui décrochent, qui ne sont pas interrogés à un instant donné. L'intérêt du numérique, c'est qu'on est 100% mobilisé face à un écran ou une tablette.
Mais pas l'ordinateur à la place du professeur.
Non, alors il ne s'agit pas du tout de ça. Hein. Tout le monde sait, et le conseil scientifique l'a souligné, hein, que les outils numériques ne remplacent pas l'interaction humaine. Le cerveau humain a besoin de contact humain. C'est même essentiel chez les petits. Et c'est comme ça qu'on apprend quand on est petit. Hein. Mais il peut y avoir un complément. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce complément engage les familles et il engage l'enfant potentiellement 7 jours sur 7. Si le logiciel est bien fait, si c'est un jeu, si c'est amusant, l'enfant a envie d'y aller. Et s'il y va un petit peu tous les jours, vous savez, c'est un petit peu comme l'apprentissage de la musique. Certains apprentissages, celui de la lecture, celui du calcul, il y a un aspect de consolidation jour après jour. Donc l'enfant qui a commencé à apprendre à lire, par exemple, ce qui va lui permettre d'aller au-delà dans son apprentissage de la lecture, c'est tout simplement la lecture elle-même. C'est le fait de lire des livres tous les jours. Exactement comme quand on apprend du violon, ben c'est le fait de pratiquer son violon tous les jours qui va faire progresser. Alors les logiciels permettent cela, bien plus que l'école qui évidemment est limitée en moyens et en temps.
Si je comprends bien, moins de cours magistral et plus d'aller-retour entre des exercices numériques et des accompagnements individuels, c'est ça ?
Alors ça, c'est une recommandation pédagogique plus générale, qui ne s'applique pas nécessairement qu'au numérique. C'est une découverte des sciences cognitives, c'est qu'il vaut mieux éviter le cours magistral très long et faire des alternances de périodes d'enseignement et de périodes de test. Et c'est comme ça qu'on apprend le mieux, même si le test prend un petit peu de temps. En fait, le test est une période d'apprentissage. C'est pas juste une mesure des performances des enfants. C'est une manière pour l'enfant lui-même de développer sa métacognition, c'est-à-dire savoir ce qu'il ne sait pas, se rendre compte qu'il n'a pas suffisamment étudié ou que simplement étudier en rêvassant devant le livre, ça ne suffit pas. C'est au moment du test qu'on se rend compte qu'on met à l'épreuve ses connaissances et ensuite on retourne à l'enseignement avec une approche un petit peu différente. On insiste beaucoup sur cet aspect d'autorégulation. Vous voyez, l'enfant qui est lui-même motivé, qui développe son attention, éviter la distraction, mobiliser toute la concentration, ce qu'on appelle l'engagement actif, et s'évaluer régulièrement avec, et ça c'est aussi un point intéressant qui existe dans le logiciel mais qui devrait exister à l'école en général, décomplexer l'erreur. C'est tout à fait normal de faire des erreurs. Si vous apprenez la musique, c'est évident. Jamais vous n'arriverez à jouer ce morceau de Mozart dont vous rêvez du premier coup. Vous allez faire des erreurs, mais vous apprenez de vos erreurs. Il faut arriver à valoriser l'erreur, se rendre compte que l'erreur a un statut positif, c'est une opportunité d'apprendre.
Stanislas Dehaene, président du conseil scientifique de l'éducation, poursuit cet entretien passionnant dans un instant, après une pause.
Europe 1. Comme tous les samedis, de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine.
Avec Stanislas Dehaene, spécialiste du cerveau, président du conseil scientifique de l'éducation nationale, peut-être avez-vous vu le dossier de une de journal Libération ce matin sur les enfants qui paraissent moins traumatisés, moins angoissés que leurs parents sur ces deux mois de crise, impression rapportée par de nombreux profs cette semaine, qui soulignent la capacité d'adaptation des plus petits à se plier à de nouvelles règles. C'est normal, Stanislas Dehaene, c'est le propre des enfants.
Oui, ça m'étonne pas du tout. Vous savez, pour les enfants, chaque jour est un jour nouveau. Et effectivement, ils peuvent s'adapter. Souvent, ce sont les adultes qui projettent sur les enfants des peurs. On a vu, par exemple, c'est malheureusement presque fake news, des photos qui étaient isolées, des enfants qui étaient isolés dans des cours d'école. Photos qui ne rendaient pas compte du fait que ces enfants étaient en train de jouer. On peut tout à fait jouer tout en gardant une distance. Il y a sur le réseau social des enseignants, il y a de très jolies propositions de jeux, par exemple de jouer en miroir. Et le fait d'adopter la posture de quelqu'un d'autre en miroir tout en restant à distance, et le fait d'être à distance peut faire partie du jeu, peut faire partie de la règle du jeu, vous voyez. Donc ça, les enfants sont très créatifs de ce côté-là. Et de manière générale, il y a un virus qui court dans notre école, et ça date pas d'il y a 3 mois, c'est le virus du pessimisme. Et on le sait, malheureusement, l'école française est un peu spécialiste de ce virus-là. Penser que les choses vont aller mal, et malheureusement, la science montre que ça a un effet auto-prédictif. C'est-à-dire que si les enfants ont un esprit positif, ils apprennent mieux et les choses vont mieux. Mais donc il faut absolument qu'on arrive à adopter cet esprit positif, cet état d'esprit positif que la chercheuse américaine Carol Dweck a démontré, avoir un effet important sur les enfants.
Oui, mais il y a du travail. Est-ce qu'il faut leur parler aux enfants du Covid en classe ? Est-ce que cette épidémie qui est en train de changer nos vies doit être abordée à l'école sous différents aspects ?
Alors au conseil scientifique, on pense que oui, que évidemment ça a été un questionnement important et peut-être pour les enfants un peu plus âgés, une source d'angoisse quand même, hein, et surtout une source de nombreuses informations dont certaines à nouveau sont fausses. Donc la première recommandation du document du conseil scientifique, ça a été d'aider les élèves à comprendre et prévenir l'épidémie. On renvoie d'ailleurs vers le site de La Main à la Pâte qui est extrêmement bien fait pour fournir des outils aux enseignants pour enseigner les différents aspects de l'épidémie. Les enfants peuvent comprendre ce qu'est un virus, comprendre aussi ce que c'est qu'une épidémie, comment ça se propage, pourquoi les gestes qu'on leur fait faire ne sont pas juste des rituels comme à la messe, mais sont en réalité des gestes utiles pour prévenir l'épidémie. Et puis, au passage, l'ensemble des disciplines scolaires peuvent être mobilisées. Par exemple, on a vu énormément de graphes mathématiques. Ça ne va pas de soi de comprendre un graphe mathématique. Je ne sais pas si vous avez vu sur Fox News, il y avait un graphe où l'échelle logarithmique était particulièrement mal comprise. Il y a vraiment une fonction d'éducation là qui peut être faite autour de cette question de l'épidémie.
La démarche scientifique aussi, non ?
Mais bien sûr, alors l'esprit critique, c'est un aspect
l'esprit
très intéressant.
Critique, oui.
Comment savoir si une information qu'on me donne est juste ou est fausse ? Alors, sur le virus, je ne peux pas vraiment expérimenter, mais dans d'autres domaines, c'est encore l'action de la main à la pâte. On peut expérimenter soi-même, faire des découvertes, s'apercevoir que... il faut faire attention, parce qu'on sait en sciences cognitives qu'il ne faut pas laisser l'enfant tout découvrir lui-même. Ça ne marche pas. Il faut donc des activités qui sont guidées, très soigneusement par l'enseignant, pour aller vers la compréhension d'un objet, d'un concept qui doit être enseigné. Et c'est le moment donc pour les enseignants de bien réfléchir, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, le temps est un peu perturbé à l'école, quels sont les concepts vraiment fondamentaux qu'on veut que l'enfant maîtrise à la fin de l'année.
Vous avez cité la main à la... Oui, pardon.
Pardon, on est à distance. Là, je pensais à un concept le plus fondamental des mathématiques, c'est la relation entre les nombres et l'espace, qui est évidemment en jeu lorsqu'on comprend un graphe mathématique. Une distance sur le graphe, c'est un nombre. Ça va pas de soi, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental pour toutes les mathématiques, donc profitons-en pour l'expliquer.
Vous avez cité la main à la pâte il y a un instant. C'est vrai que les enfants qui s'intéressent aux sciences ou à la médecine éventuellement vont trouver ce qu'ils cherchent souvent sur Internet. Il y a des youtubeurs talentueux, les vidéos de Jamy Gourmaud, tout ça, c'est un complément utile à l'école. On ne trouve pas ça forcément dans les enseignements classiques.
Mais bien sûr, mais l'enseignement classique pourrait s'en inspirer. Hein. Il y a des profs stars dans ce domaine qui sont vraiment remarquables. Et de fait, ça rend les enfants un petit peu plus exigeants, je pense, vis-à-vis de l'enseignement qu'ils reçoivent à l'école. Mais rien n'empêche de projeter une vidéo de 5 minutes en classe avant de démarrer un cours pour motiver les enfants. Donc il y a toutes sortes de nouveaux modes d'enseignement qui sont expérimentés en ce moment par les enseignants. Moi, je vois une créativité absolument extraordinaire des enseignants en ce moment. C'est remarquable. Et je pense que si on tire les leçons de cette période, on va sortir vers le haut avec une école qui sera aussi plus bienveillante. C'est un des problèmes de l'école française. Les enfants n'ont pas tellement envie d'aller à l'école. En tout cas, ils sentent que c'est pas pour eux, que les enseignants ne sont pas vraiment là pour les aider. Je dis pas que c'est de la généralité, mais par rapport à d'autres pays européens, on est plutôt moins bien que les autres dans ce domaine. Alors c'est l'occasion là de rendre l'école plus sympathique.
Et dès les prochains mois, est-ce que ça peut se prolonger pendant l'été, parce que les grandes vacances arrivent et elles arrivent assez vite, Stanislas Dehaene?
Ah oui, c'est très important. Et là encore, il faut se mobiliser. Hein. J'ai lu qu'on avait beaucoup moins de colonies de vacances qu'il y a seulement 10 ans ou 20 ans.
Oui.
C'est absolument fondamental de prolonger les apprentissages pendant l'été. Le cerveau de l'enfant a vraiment besoin d'être nourri tous les jours de choses nouvelles, curieuses, bizarres, de constructions. J'aime bien cette phrase qui dit « il faut faire pour apprendre ». C'est un peu l'esprit des compagnons du devoir. Il faut avoir un projet. Et les colonies de vacances peuvent être cette occasion de créer en une semaine un vrai projet, construire une voiture radiocommandée. Ça demande un tout petit peu de moyens quand même. Donc il faut que les communautés de communes, les écoles se mobilisent, parce qu'elles ont des moyens et souvent ils dorment pendant l'été, pendant 2 mois, alors qu'ils pourraient être mobilisés pour les enseignants, pour les enfants en difficulté.
Parmi vos propositions, vous suggérez une sorte de Netflix des exercices pédagogiques. Que voulez-vous dire ?
Le problème qu'ont les enseignants, c'est que, comme vous l'avez dit, l'offre est absolument pléthorique. Donc, ce qu'on a proposé, c'est l'idée d'avoir un système centralisé, qui commence d'ailleurs à être mis en place par le système Canopé, la Canothèque de l'éducation nationale. Vous pouvez aller voir ce terme sur Internet. C'est-à-dire un système où les enseignants pourraient aller chercher, en fonction du niveau de la classe, et pas seulement les enseignants, d'ailleurs les parents aussi, des exercices, des cours, avec un système de notation qui ferait que, comme sur Netflix, mais de façon gratuite bien sûr, on verrait quels ont été les cours qui sont les mieux notés, à la fois par les enseignants et peut-être aussi par les chercheurs, pour leur qualité pédagogique et pour leur qualité intellectuelle. Oui. En tout cas, un système de partage gratuit entre enseignants. Alors, différentes académies ont leur propre système, mais je pense qu'on peut faire mieux en termes de centralisation et de partage.
Un dernier mot, il y aura des enquêtes, j'ai vu que vous les souhaitiez, il y aura des enquêtes sur l'impact du confinement et du déconfinement à la rentrée sur les élèves en maternelle et primaire.
Ben oui, on est en train de voir ça avec le département de statistiques, la DEP de l'éducation nationale, qui est là encore vraiment un système absolument remarquable. Vous savez que chaque année, tous les enfants de France en CP, en CE1, en 6e et je crois en seconde sont testés, avec des tests très simples, mais qui permettent de voir où ils en sont dans les fondamentaux. Ce qui fait qu'on voit à l'avance, par exemple, les problèmes de résolution de problèmes mathématiques qui sont vus ensuite dans les enquêtes PISA lorsque les enfants ont 15 ans. Donc on a des capacités de mesure et bien sûr ça aide à intervenir et nous appelons à un couplage entre la mesure et l'intervention qui est donnée aux élèves.
On verra cela et puis retour lundi pour les élèves de collège de 6e et de 5e en zone verte. Merci beaucoup Stanislas Dehaene, président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Merci à vous.
Merci à vous.